Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpon. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pour défendre la biodiversité, Emmanuel Macron a énoncé plusieurs objectifs hier soir après la publication d'un rapport très alarmant porté par 150 experts. Parmi les mesures, le probable abandon du projet de la Montagne d'Or en Guyane. Précision à suivre avec Véronique Robérox.
Alors que le changement climatique menace de famine plus de 2 millions de personnes en Somalie.
La sécheresse met en danger à très court terme plusieurs centaines de milliers d'enfants. Également, explication de Claude Guibal dans un instant.
Et puis le début du Ramadan va-t-il affaiblir la mobilisation au Soudan?
Alors que 90% de la population soudanaise est musulmane, le jeûne a commencé hier. Nous irons à Khartoum dans ce journal.
Le lancement de la production industrielle de la fusée Ariane 6.
14 fusées devraient être produites d'ici 2023, précision avec Hakim Kasmi. Et puis la question du jour, Guillaume.
Que cherche la France en Libye? On posera la question à Jalel Harchaoui. Il est chercheur à l'Institut des Relations Internationales. Aux Pays-Bas, auteur notamment de l'article « Libye, quand Haftar saccage des années de diplomatie ».
Emmanuel Macron a annoncé hier soir quelques futures mesures pour préserver la biodiversité, comme élargir les espaces protégés, encore réfléchir à de possibles mesures fiscales cet été. Parmi les sujets sur la table, il y a celui de la Montagne d'Or en Guyane, un projet de mine d'or à ciel ouvert qui se poserait de déforester 800 hectares, l'équivalent de 32 stades de France, à la lisière d'une réserve biologique où vivent des centaines d'espèces protégées. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste environnement de France Culture. Alors le chef de l'État a esquissé hier un probable abandon du projet.
Oui, à l'heure actuelle, ce que je sais du projet n'est pas compatible avec l'ambition que je viens de fixer en matière de biodiversité. Ce sont les propres mots d'Emmanuel Macron. Ils ont été prononcés donc hier soir à l'Élysée à l'issue de sa rencontre avec des chercheurs mondiaux venus lui présenter un rapport alarmant sur l'état de la biodiversité dans le monde. Alors après avoir soutenu sans réserve ce projet de méga mine d'or industriel en Guyane, situé donc en pleine Amazonie, le chef de l'État avait déjà estimé en début d'année que le projet la Montagne d'Or n'était pas au meilleur niveau en matière de respect de l'environnement. Désormais, Emmanuel Macron prend nettement ses distances vis-à-vis de la Montagne d'Or. Alors, si ce projet de mine à ciel ouvert qui nécessiterait pendant 12 ans d'exploitation, l'utilisation de 10 tonnes de cyanure par jour, nécessaire pour exploiter l'or, eh bien, si le projet est soutenu localement par le patronat et la plupart des élus guyanais, il fait l'objet d'une opposition féroce sur place de la part des communautés amérindiennes locales. Elles ont promis de s'opposer par tous les moyens à cette mine située au cœur de deux réserves naturelles, au milieu de montagne sacrée pour les peuples autochtones. Opposition portée également par le WWF il y a quelques semaines encore. L'ONG était dirigée par Pascal Canfin. Ce dernier est aujourd'hui le numéro 2 de la liste La République en marche aux européennes. Et c'est là que le calendrier devient intéressant. Le ministre de l'écologie, François de Rugy, doit se rendre en Guyane en juin prochain. Emmanuel Macron a avant cela prévu de consacrer son prochain conseil de défense écologique le 21 mai à la biodiversité. Le projet Montagne d'Or y sera largement évoqué 5 jours avant le scrutin européen.
Merci Véronique Robérotte en direct ce matin sur France Culture et votre grand reportage Montagne d'Or, bon ou mauvais filon est à retrouver sur franceculture.fr.
7h03, la suite du journal de Sophie Delpon sur France Culture. Les victimes et les familles de victimes attendaient cela depuis 10 ans. Le procès des dirigeants de France Télécom s'est ouvert hier.
Oui, les juges d'instruction ont retenu lors de l'enquête les cas de 39 salariés. 19 se sont suicidés, 12 ont tenté de le faire et 8 ont connu une dépression ou un arrêt de travail. Plusieurs anciens dirigeants et cadres de France Télécom sont poursuivis pour harcèlement moral. C'est la première fois qu'une entreprise du CAC 40 est ainsi mise en cause. Au total, ce sont 167 personnes qui se sont constituées partie civile. Parmi elles, Antoine Maret a rencontré Raphaël Louvradoux, dont le père, fonctionnaire à France Télécom, s'est suicidé en 2011 sur le parking de son lieu de travail.
Moi, mon père, le 26 avril 2011, il s'est immolé par le feu devant son lieu de travail. Et on a découvert après sa mort qu'il avait écrit un courrier à sa direction, un parmi d'autres, dans lequel il met en cause la politique managériale de France Télécom et dans lequel il conclut en disant: vous faites en sorte que le suicide soit la seule solution. Donc 2 ans avant sa mort, il envoie un courrier qui est resté sans réponse. La réalité, c'est qu'on a mis 10 ans à amener une poignée de personnes devant un tribunal pour qu'ils ne risquent même pas la prison, alors que ce qu'ils ont fait, c'est quand même se réunir calmement et se dire « on veut dégager un petit peu d'argent maintenant pour le reverser aux actionnaires. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer 22 000 postes, quitte à supprimer 22 000 vies. » Parce qu'ils ont quand même conçu un plan, formé des managers et rémunéré des managers avec une méthode précise qui était la même appliquée partout pour pousser les gens à bout jusqu'au suicide. Clairement, ce qu'ils risquent, c'est trop peu par rapport à ce qu'ils ont commis.
Vous attendez des explications, voire des excuses ?
On n'attend ni excuses, ni demande de pardon. On attend qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait et qu'ils aient à faire face à la sanction qu'il mérite. Eux, ils disent, ce sont des relations individuelles, je ne connaissais pas directement cette personne, j'étais même plus en poste quand ça s'est passé, dans le cas de mon père, c'est ce qu'a dit Didier Lombard, certes, mais la réalité des faits, c'est qu'ils ont conçu un plan, qu'ils l'ont mis en œuvre pendant des années au vu et au su de tout le monde, et qu'il ne s'est rien passé jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, il faut qu'ils reconnaissent le caractère prémédité, le caractère méthodique de ce qu'ils ont fait, le caractère général et massif de ce qu'ils ont fait, qu'ils aient à reconnaître ça et qu'ils soient sanctionnés pour.
Raphaël Louvrado au micro France Culture d'Antoine Maret.
Et on en reparle dans quelques instants en compagnie de la psychologue du travail Sylvaine Perragin et d'une enseignante chercheuse en sciences de gestion Valérie Michaud.
Le Premier ministre en campagne pour la liste de la majorité aux élections européennes hier. Édouard Philippe était à Caen au meeting de la tête de liste Nathalie Loiseau, à La Peine dans les récents sondages. Et il faudra plus qu'un meeting pour rassurer les militants, même s'ils scandaient hier soir « On a gagné » Steven Goyer.
Dans le centre des congrès plutôt rempli, hier soir, beaucoup n'attendent qu'une chose de cette réunion publique, un véritable lancement de campagne, voire même pour certains.
Connaître un peu plus Madame Loiseau, surtout.
Nathalie Loiseau, une candidate jugée compétente, mais qui n'imprime pas assez d'après les sympathisants présents. Exemple avec Louis.
Elle mériterait d'être un peu plus audible. C'est pas une oratrice née. Je pense que c'est une personne de dossier. Elle pourrait être supportée, encouragée, accompagnée par bien d'autres personnes.
Ce soutien, il passe d'abord par le Premier ministre Édouard Philippe, venu appuyer la campagne et sa candidate, parfois mise en difficulté.
C'est le moment où on apprend à faire l'objet de polémiques qui ne sont pas toujours glorieuses. C'est le moment où on fait l'objet d'attaques, de commentaires. C'est le moment où on aimerait parler des grands débats et on est renvoyé aux petits sujets. Dans ces moments-là, il faut, et c'est une règle générale, rester calme. Rester calme et, comme disait mon adjudant, rester calme et boire frais.
À la tribune, Nathalie Loiseau l'assure, c'est le grand départ de sa campagne européenne.
Il y a une campagne qui démarre puisque ce soir on parle d'Europe, ce qui me fait un petit vent d'air frais, pas forcément désagréable. Et il y a de plus en plus de gens qui savent que c'est avec Emmanuel Macron, avec ceux qui le soutiennent, que cette Europe a des chances de bouger.
Une campagne qui promet d'être très courte, 3 semaines à peine, si aucune nouvelle polémique ne vient ralentir la marche.
Reportage de Steven Goyer pour France Culture.
7h07, la suite du journal de Sophie Delpont dans les matins de France Culture. Près de 2 millions de personnes en manque de nourriture. Parmi elles, des centaines de milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition en Somalie.
Oui, alors que le pays est déjà frappé par la guerre, c'est une nouvelle fois un SOS lancé par une ONG hier. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, des centaines de milliers d'enfants sont en danger à très court terme à cause de la sécheresse qui frappe le pays, ce qui a encore aggravé leur situation, Claude Guibal.
Il y avait la guerre, le chaos, il y a aussi les effets du dérèglement climatique. Dans la Corne de l'Afrique, la crise alimentaire chronique a gagné en intensité depuis 2017, avec la sécheresse liée à El Niño. Cette année, la saison des pluies a été quasi inexistante, ce qui va affecter les récoltes. D'ici cet été, 2 millions de Somaliens devraient être ainsi au bord de la famine et des dizaines de milliers obligés de fuir les zones rurales vont s'ajouter aux 2,5 millions de personnes qui ont déjà fui leur foyer. Et c'est bien cette combinaison infernale, des conflits et des conditions climatiques qui créent cette spirale de la faim. Sans paix, pas de développement. Sans développement, pas de possibilité de limiter les conséquences des catastrophes naturelles. Pour pouvoir lutter contre les effets du dérèglement climatique, il faudrait pouvoir par exemple investir dans des systèmes d'irrigation à petite échelle ou travailler sur le rendement des terres. Mais cela est évidemment rendu impossible par l'instabilité et l'insécurité qui compliquent l'accès aux zones menacées. Les populations, elles, fuient l'insécurité et renonce souvent à cultiver. Le bétail, sa principale source de richesse, meurt des conséquences de la sécheresse. Un cercle vicieux qui plombe l'Afrique de l'Est et centrale, bien au-delà des seules frontières de la Somalie.
Au Soudan, un mois après la chute d'Omar el-Béchir, l'occupation de la place devant le QG de l'armée continue pour maintenir la pression sur les militaires et avoir une transition démocratique rapide. C'était hier le premier jour du mois du Ramadan et dans ce pays où plus de 90% de la population est musulmane, ce premier jour de jeûne était une épreuve pour la mobilisation et sa capacité à perdurer. C'est un reportage à Khartoum de Martin Roux.
Sous un soleil brûlant, la place Al-Qaïda, bastion de la révolution, est vide. Aïcha se déplace avec un parapluie pour avoir un peu d'ombre. Elle n'a pas quitté le sit-in depuis un mois.
Je jeûne, mais je suis forte. Je veux vivre dans un pays libre, un pays démocratique. Et je le vois sous mes yeux. Alors pourquoi je m'arrêterais ?
Pour ceux qui n'ont pas sa force, les organisateurs du sit-in ont équipé les tentes de climatiseurs. Grâce à cela, Souleymane Jaber Pacha, âgé de 56 ans, continue de dormir ici.
C'est dur, on devrait partir, mais grâce au climatiseur, on est de plus en plus nombreux.
Pour la rupture du jeûne, une foule immense est de nouveau réunie. Sami Talab est venu en famille.
Ce conseil militaire attend ce moment pour que le sit-in s'arrête. Ils pensent qu'il fait trop chaud pendant le mois de Ramadan et c'est pour cela qu'ils prennent autant de temps pour négocier. Mais nous sommes présents.
Les occupants entendent écarter au plus vite l'armée des commandes de l'État. Ils restent donc vigilants, inquiets de l'avenir de leur révolution.
Martin Roux à Khartoum pour France Culture. La production industrielle de la fusée Ariane 6 est lancée, une annonce d'Ariane Group hier, après six mois après des négociations qui ont duré des mois avec les instances européennes pour garantir financièrement le projet. L'une de ces particularités de cette nouvelle fusée, c'est notamment sa possibilité de réallumer les moteurs pour pouvoir déposer des satellites sur différentes orbites. Ce nouveau lanceur devient indispensable à l'heure où la concurrence est rude avec les États-Unis, notamment avec SpaceX et sa fusée réutilisable.
Avec des coûts de production réduits de 40%, Ariane 6 est la réponse de l'Europe face à ses principaux concurrents américains. Un bond technologique réalisé grâce à de nouveaux moyens de production, comme l'utilisation de matériaux composites plus légers et de l'impression 3D qui permet de réaliser des éléments plus complexes avec moins de pièces. Les modes de production ont également évolué en s'inspirant de ceux de l'automobile. André-Hubert Roussel, le PDG d'Ariane Group.
Avec Ariane 6, on fait un progrès énorme sur le temps de fabrication d'une fusée. Avec Ariane 5, on était plutôt de l'ordre de 3 ans. Là, avec Ariane 6, on sera plutôt autour de 2 ans, voire un petit peu moins. Et donc, si on commence la production maintenant, ça veut dire qu'on sera lancé à partir d'avril-mai 2021. Et ça tombe bien puisque c'est le moment où les premiers clients nous attendent. Avec une versatilité complète, hein, puisque toutes les missions qu'on nous demande aujourd'hui, Ariane 6 saura les réaliser.
Reste l'éventualité d'une fusée en partie réutilisable, comme l'américaine SpaceX. Ariane Group y réfléchit très sérieusement après avoir longtemps refusé d'utiliser cette technologie, pas encore assez éprouvée. Mais pour cela, l'entreprise attend des garanties financières de la part de l'Europe.
Le temps, de la brume presque partout ce matin, du soleil du nord des Alpes jusqu'à la Méditerranée. Les températures 6 à 16 degrés ce matin avec 6 degrés à Clermont-Ferrand, 9 à Paris, 15 à Nice et jusqu'à 16 degrés à Marseille.